À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine. Aujourd'hui, dernier volet de notre entretien. Hier, nous évoquions la famille trotskiste à laquelle vous appartenez depuis une cinquantaine d'années. Et avant cela, nous avons parlé ensemble de votre cellule familiale, de votre première famille communiste, de vos mobilisations pour la liberté des peuples et de la famille des étudiants de 68. Il reste une dernière famille à évoquer, celle des hommes politiques, celle à laquelle vous avez appartenu au travers d'un mandat et de responsabilités politiques et publiques. Vous avez été candidat à la présidentielle deux fois, en 69 et en 74. Vous avez été député européen de 1999 à 2004. Vous avez été membre du bureau politique de la LCR pendant de longues années, porte-parole de cette même ligue jusqu'en 2009, au moment de sa dissolution. Et vous avez manifesté, fait campagne, organisé des meetings, signé des pétitions, participé à des forums mondiaux, occupé une église aux côtés de sans-papiers, fauché un champ de maïs génétiquement modifié. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous êtes un homme politique et public, mais aussi un activiste et un militant. Alors, pour commencer cette émission, je voudrais évoquer votre première campagne électorale en 69. On trouve des images de vous sur le site de l'INA avec lunettes et cravate noire. On est loin du révolutionnaire qu'on pourrait imaginer. C'était un discours très ampoulé à l'époque.
Ben, c'était ampoulé. En plus, j'étais soldat, hein. J'étais à l'armée. Puisque donc après, on m'a libéré de tôle en août. Puis je suis parti à Verdun dans l'infanterie. Et puis là, l'organisation m'a désigné comme candidat, ce qui a fait pas mal de boucans. Je vous passe tous les détails, mais ça aussi, ça a été une étude intéressante des milieux militaires, parce que ça foutait la panique. Moi, il y a des officiers qui sont venus voir en disant « Je me suis tapé les Viettes, les Fellouzes, mais j'ai jamais une histoire pareille à régler. » Parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de moi, parce que j'étais candidat, il y avait les radios, les télés, j'avais pas de permission. La loi disait qu'il fallait avoir accompli ses obligations militaires. Mais est-ce qu'un soldat qui n'avait pas terminé les avait accomplis? Enfin bref, très compliqué, et je suis resté. On m'a retiré toutes mes responsabilités, je montais plus la garde ni rien. Finalement, on m'a filé même une salle de réunion où mes copains venaient me voir. Mesmer a fait un décret spécial, le ministre des Armées, qui paraît-il aujourd'hui, n'est-ce pas, a fait date pour les étudiants en droit. Mais en gros, j'ai une permission. Alors, rien que pour sortir, c'était une réunion d'état-major. J'étais à Verdun, ce qui est normal, ils ont l'habitude de perdre ou de gagner les guerres. Et là, ils ont failli la perdre parce que la réunion d'état-major fixait un endroit dans un village où une voiture de la Ligue devait venir me prendre à telle heure la nuit, etc. Et je partais en civil dans la bagnole d'un lieutenant pour aucune télé me chope à la sortie, enfin un truc de dingue. Et sauf manque de peau, c'est que ça n'existait plus l'endroit en question où il devait y avoir rendez-vous. Leur carte datait, donc heureusement qu'il n'y a pas de conflit. Et bon, finalement, j'ai quand même retrouvé mes copains parce qu'ils avaient une voiture rouge, ce qui est normal. Pu les retrouver. Bon, bref, ça a fait un gros bousin. Et d'ailleurs, le colonel, avant de partir, m'a dit « Krivine, put your school » et à la télé, mais attaquez pas votre régiment. Normal, bonne guerre. Bon, voilà. Mais moi, j'avais pas l'habitude de la radio et de la télé, hein, donc ça fout la trouille. Hein. Moi, je comprends encore, y compris aujourd'hui, parce qu'on est devant la télé. À l'époque, on n'avait pas toutes les latitudes, on avait le droit à trois prises, assis derrière un truc comme un crétin, et il fallait débiter son machin, et quand je regarde aujourd'hui, j'ai honte, hein, c'est inaudible. Non, mais... Ouais, on s'adresse à des millions de gens qui sont en train de bouffer leur potage le soir ou de jouer ou de je sais pas quoi. Et moi, j'ai rêvé avec mon discours de 68 qu'il fallait une armée révolutionnaire plus forte que l'armée bourgeoise. Je suis pas certain, même si c'est juste sur le fond, que ça passe à 21h ou à 20h le soir pendant que les gens dînent. Donc, et puis ça fout la trouille, la télé. Moi, ça me foutait une trouille noire. Mais je parle devant des millions de gens, j'engage tout le monde, mes propres camarades. Bon, voilà, très très désagréable. Moi, je regarde. Ça, pas les meetings, il y avait des grands meetings, mais la télé, c'était les débuts de la télé. Ils sont adaptés depuis pour les candidats. Mais moi, je regarde un souvenir terrible.
Et alors, on lit, quand on regarde les documents de l'époque, on voit qu'on vous appelait Krivine la cravate.
Parce qu'à l'époque, beaucoup de gens portaient la cravate. Il n'y avait pas que moi, si on regardait les photos. Moi, effectivement, j'avais une cravate. Je vais vous dire même la vérité, c'est un scoop vachement important. Il faudrait qu'il y ait des journaux qui mettent ça en une. En fait, j'avais qu'une cravate. Et le jour où je ne l'ai plus portée, mais je ne défaisais pas le nœud. Je défaisais un petit peu, mais pas complètement. Et c'est le jour où je n'ai pas pu défaire définitivement le nœud que j'ai jeté la cravate et que j'ai plus eu de cravate.
Après... Une bonne anecdote. Et quel était l'objectif? Alors, certainement pas l'exercice du pouvoir. Pourquoi se présenter aux élections présidentielles en 69, donc un an après 68?
On avait une organisation hyper culottée hein, à l'époque. Bon, donc moi j'étais à l'armée, le local c'était à trois pièces. Et puis certains camarades, je peux donner son nom d'ailleurs parce qu'il est très connu maintenant, c'était les frères Rothman, qui aujourd'hui font plein de films à la télé, qui étaient à la Ligue, notamment Michel, qui est un ami, et qui a eu l'idée. Il a dit faut être gonflé, faut y aller. Il faut se lancer. Et il fallait des signatures moins qu'aujourd'hui, mais d'élus, etc. On n'avait rien, on n'avait pas de fric, on n'avait rien. On s'est lancé, on a été collectés. Moi, je sais que du coup, j'ai été voir des intellectuels, des modélistes très connus dont je ne donnerai pas le nom. Certains nous ont donné du fric, mais uniquement sur le culot. Il y en a un qui m'a dit, un type très connu, qui m'a dit, moi je vous donne du fric parce que vraiment c'est démon. Vous avez deux pièces cuisine, salle de bain, vous voulez être président de la République, fantastique, tenez, voilà du fric. Donc il y avait ce côté un peu gonflé. Non, l'idée c'était pas d'être élu, je crois qu'on avait peu d'illusions. Non, mais c'était de se dire, là, au lieu de s'adresser devant quelques milliers de personnes dans des meetings ou dans des feuilles de choux, on va s'adresser à des millions de gens. Ça c'était, on se disait, c'est fantastique, et c'est vrai que ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, maintenant... Le rôle de la télé et du candidat, il est clé, hein, absolument clé. Si on veut faire connaître quelqu'un, moi je vois chez nous, on change, mais c'est par la télé et la présidentielle qu'on fait connaître des gens, c'est clair, pour un petit parti, hein, j'entends.
Et qu'est-ce que vous avez eu justement comme retombée à l'époque, comme de cette expérience un petit peu, parce que le résultat électoral n'a pas été énorme, vous avez eu en gros 1% des voix.
Ah oui, un peu plus d'un pour cent. Je ne suis pas tombé en dessous de zéro, ce qui est pas mal. Mais j'ai eu un peu plus d'un pour cent, dérisoire, je ne sais plus combien, 300 000 voix. Mais non, mais l'idée, ce n'est pas tellement les gens qui ont voté pour nous. Il y a des gens très bien. Moi, je sais que le premier que j'ai rencontré dans un train, il avait 20 bouquins sous les bras. Il m'a dit, Krivine, j'ai voté pour vous. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, pour emmerder le village. Donc, ce n'était pas uniquement des sympathisants qui votaient pour nous. J'étais un peu le candidat bizarre. Mais non, par contre, il y a des... même si les gens n'ont pas voté pour nous, beaucoup ont voté pour nous par sympathie politique, à tel point qu'on a sorti un mot d'ordre qui était faux, organiser tous les électeurs dans le parti politique, ça c'était complètement faux comme idée même. Mais par contre, même des tas de gens qui n'ont pas voté pour nous, qui ont voté pour la gauche, mais même si le discours était, je répète, je pense qu'il était très mauvais, mon discours à l'époque, incompréhensible, très étudiant, un peu gaucho sur les bords. Néanmoins, bon, c'était nouveau hein, pour les gens. Ça a été un peu comme Arlette aussi, qui elle avait beaucoup marqué. Et elle le faisait. Moi, j'ai appris beaucoup d'Arlette après. Hein, parce qu'Arlette, elle savait s'adresser à des millions de gens. Moi, j'avais pas son talent. Hein. Et elle avait les mots, la simplicité pour vraiment faire passer le message. Et la preuve, elle a réussi. Hein.
Et ça faisait pas peur après mai 68, justement, un des dirigeants de 68 qui se présentait à la présidentielle s'était perçu comment ?
C'était plus tellement perçu comme 68, parce qu'entre-temps, il y avait eu des élections, hein, si je ne me trompe, où la droite avait gagné. Donc c'est là, d'ailleurs, ça aussi, c'est une quatrième leçon de choses, où on voit que quand un mouvement populaire tombe et connaît un échec, parce qu'à ce niveau, ça a été un échec, tout s'écroule, y compris l'électorat, etc., je veux dire. Des tas de gens que vous auriez pu gagner pendant le mouvement, ils vous lâchent. Au moment électoral, vous n'êtes plus crédible, il y a la déception, il y a tout ça qui a joué. Donc voilà, j'étais pas le candidat de 68, il s'avère que j'étais un de ceux qui avaient fait 68, mais j'apparaissais pas comme
identifié.
Non, j'étais identifié comme un candidat d'extrême gauche étudiant qui foutait la trouille, hein. Parce que je faisais peur, à la différence par exemple d'Olivier de Besancenot. Ça, c'est sa force extraordinaire, c'est qu'Olivier faisait pas peur, les gens se reconnaissent dans Olivier. Moi, faut dire la vérité, millions de travailleurs, ils se reconnaissaient pas dans moi. J'étais l'étudiant cravaté qui faisait un peu les discours qu'il faisait dans la cour de la Sorbonne.
Alors, vous récidivez en 1974, vous êtes oui. De nouveau candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi, réitérer cet exercice ?
Parce qu'on avait apprécié le premier, malgré toutes les limites, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais je répète, si, le fait d'être reconnu par des millions de gens, c'est très important, hein, c'est tout bête, mais bon, ça compte. Alors, avec le défaut que ça pousse à la personnalisation, on est contre. Mais en même temps, on en a joué. Ça, c'est tout le problème qu'on a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce qu'on va à certaines émissions télé, pas très politiques et tout, mais des millions de gens la regardent, et on impose un discours politique, ou est-ce qu'on n'y va pas et on disparaît ? Donc voilà, c'est pas nous qui dirigeons. Hein. Donc nous, on s'est dit, cette télé, malgré tous ses défauts, elle permet au moins de toucher les... Bon, rebelote, on s'est dit, pourquoi pas ? Alors à l'époque, on aurait peut-être dû en prendre un ou une autre, ça c'est clair. Mais bon, il y a un petit peu la routine qui a joué, tu l'as fait une fois, tu le refais, hein. Et rebelote. Mais et là, le résultat était pire, puisque j'ai fait moins de 1%. Non seulement j'ai pas été élu, mais là vraiment, il m'a manqué presque 99% pour être élu, quoi.
Oui, puis vous n'étiez pas le candidat bizarre cette fois-là. Il y avait le candidat écologiste, René Dumont, qui était en col roulé rouge. À l'époque, ça faisait scandale. Qui disait son slogan, c'était quoi, la voiture, c'est con et ça pue, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis il y avait Arlette Laguiller, qui vous a battu cette année-là.
Elle était bien meilleure. Pour ça, je ne dis pas que son programme était meilleur. Mais je veux dire, elle, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup appris d'elle. Hein. Enfin, pas moi, puis d'autres après. Pour arriver jusqu'à près de 5% des voix à une élection présidentielle, elle a fait beaucoup. Mais bon, ça prouve qu'elle est devenue une personnalité, qu'on le veuille ou non. Hein. Bon, les autres s'en servent. Encore aujourd'hui, Lutte ouvrière, première page du journal d'Arlette Laguiller.
Et puis c'était une femme en 1974, pour
Absolument.
Certaines électrices.
Une femme et une employée.
Et vous avez le souvenir de comment vous avez vécu cette campagne, comment vous avez vécu le résultat des élections? Comment est-ce qu'on vit ça quand on est un parti? On sait qu'on ne sera pas un élu à ce moment-là, mais comment est-ce qu'on vit cette fièvre de la campagne, ces moments qui sont quand même des moments intenses, des moments de travail très intense aussi?
On travaillait moins qu'aujourd'hui. Moi, je vois aussi bien Besancenot que Poutou aujourd'hui, c'est, on travaille les dossiers, on a raison. Moi, je me contentais trop de mots d'ordre et de slogans, je travaillais pas tellement. Eux, ils travaillent, ils ont raison. On faisait des meetings très gros, par contre. Ça ne veut rien dire sur le plan électoral. Vous pouvez remplir 10 000 personnes et avoir un pétouille de voix. Ça aussi, ça nous a beaucoup appris. Mais les meetings, moi, je suis un homme de meeting, ça me plaisait énormément. Un meeting était chaud, ça gueulait et tout. On faisait ça en avion, on n'arrêtait pas, hein, parce qu'on avait un pilote qui faisait ça par amour du pilotage. Et c'est très drôle d'ailleurs, j'avais un petit avion privé que je prenais avec Henri Weber, qui aujourd'hui est dirigeant du PS. Donc, oui, c'est très ouvert, mais enfin à l'époque il n'était pas. Donc moi je ne me posais pas le candidat, le problème d'être élu et tout. Même le nombre de voix, très franchement, on sortait d'une période gauchiste au sens anti-électoraliste. Parce qu'avant la présidentielle, on avait participé à des élections où parfois on ne mettait même pas le nom du candidat sur les affiches. Par anti-électoralisme, qui est complètement idiot. Bon, alors là, au moins, on avait rompu, puisqu'il y avait moi. Bon.
Et comment expliquer qu'il y ait eu votre candidature et puis celle d'Arlette Laguiller? Pourquoi ne pas, on peut imaginer, deux mouvements trotskistes pourraient s'unir pour... Alors, c'est l'éternelle question.
Mais oui, mais elle est juste comme question, mais elle est toujours d'actualité. Hein. Ça, c'est le type de rapport avec Lutte ouvrière, qui est une organisation politiquement pas des adversaires, ils sont très proches. Bon, moi, je leur reproche souvent d'être un peu ouvriériste, un peu... Mais même, c'est la relation qui change un peu, parce qu'elle nous accuse d'être opportunistes avec la gauche, et ils se sont fait élire aux dernières élections sur les listes du nom de la gauche pour avoir des élus municipaux à tout prix. Bon, c'est pas tellement faire preuve de pureté révolutionnaire. Mais en gros, quand ils décident, tout est discipliné, organisé, etc. Quand ils décident de faire l'unité avec nous, c'est le grand amour. Ça a été le cas au moment des élections européennes. Quand ils décident de le faire avec la gauche, c'est aussi le grand amour. Ils ne soutiennent pas le programme de la gauche, mais ils votent les budgets. Et puis quand ils décident d'y aller tout seuls, ils y vont tout seuls et on ne se voit plus.
Et comment finalement s'est fait ce choix, peu à peu, d'entrer dans le jeu politique, d'avoir des représentants municipaux, des représentants en région, passer voilà, de ce que vous disiez tout à l'heure, un parti qui était anti-électoraliste, à un parti qui finalement joue le jeu du jeu politique, justement, de l'action politique
Je crois que c'est justement parce qu'on n'a jamais été sectaire. On ne le faisait pas au tout début, parce que quand vous êtes 200, 300, 400, ça n'a pas de sens. Et bon, on ne se posait même pas le problème, mais on n'était pas contre non plus, parce que pour nous, l'électoralisme, ce n'est pas d'aller aux élections, c'est de dire que c'est par les élections qu'on va changer les choses, ce qui est différent. Mais et dès qu'on est, ça a été le cas de la Ligue, dès que la Ligue, à la différence des JCR, a commencé à avoir une certaine audience populaire, on savait très bien que pour les gens, les élections, c'est important, y compris pour se faire connaître et tout, et même au bout d'un certain temps, avoir le plus de voix possible, parce que ça pesait sur la situation politique. Le fait qu'on est arrivé en fin de course à ce que, en additionnant par exemple les voix d'Arlette et d'Olivier, il y a près de 2 millions de voix pour l'extrême gauche, ça, c'est un événement mondial. Et alors en France, ça a chamboulé complètement les rapports avec la gauche, redonné confiance aux gens et tout. Donc c'est pas du tout quelque chose à négliger, hein, y compris d'avoir des élus.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Alain Krivine, comment vous envisagez ce rôle qui a été le vôtre pendant très longtemps, qui est un rôle important à la LCR, le rôle de porte-parole?
porte-parole. Moi, j'étais un porte-parole discipliné. Je sais que j'ai des fois défendu, y compris publiquement, devant des milliers de gens, des positions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Notamment quand on avait décidé de voter indistinctement, quand j'étais plus candidat, pour tous les candidats de la gauche, alors qu'il y avait quand même Arlette qui se présentait. Je trouvais que quand même, il fallait privilégier Arlette. Mais bref, j'ai quand même défendu ça en discipline. Ça, c'était le rôle du porte-parole.
Et puis, vous avez une personnalité qui est très chaleureuse, qui passe bien. Les gens ont de la sympathie pour vous et qui peut-être est un petit peu différente de l'idée qu'on peut avoir de la Ligue communiste révolutionnaire, quelque chose parfois qui peut être un peu sectaire, on l'a évoqué, cette question du sectarisme, et puis qui peut, avec ces histoires de pseudonymes, ces histoires de clandestinité, qui sont loin de l'image que vous donnez, vous, en tout cas.
Oui, mais je ne suis pas certain, à l'époque où je passais un peu la télé et tout, je crois que j'avais quand même l'image du gauchiste qui foutait la trouille. Je veux dire, c'est tout à fait différent d'Arlette ou d'Olivier Besancenot. C'est justement, c'est pas la même perception, et d'ailleurs c'est pas les mêmes résultats électoraux, c'est pas la même perception. Parce qu'à la télé, on n'apparaît pas, franchement, en tout cas moi, pour ce que je crois être, hein, on n'est pas relax, on n'a pas le temps, on peut pas, on est complètement crispé, on est même parfois langue de bois. Moi, au contraire, j'ai l'impression que maintenant, ça a changé, y compris parce que le type d'émission a changé, les gens peuvent être plus relax, on peut... Bon.
Et justement, ces questions, Alain Krivine, des pseudonymes qui étaient très utilisés pendant longtemps à la Ligue communiste et à la LCR ensuite, et puis cette question de la clandestinité, ces questions-là, est-ce que c'est des choses qui parfois vous agaçaient, que vous vouliez voir changer au sein de...
Mais à l'époque, non. Aujourd'hui, ça me semble aberrant, quand on peut l'éviter, parce que c'est pas normal. Mais en plus, ça pose des problèmes. Moi, je sais, il y a des assemblées syndicales où des camarades entre eux dans le syndicat s'adressent au dirigeant syndical et il ne sait pas forcément son nom, il l'appelle par son pseudo. Ça, c'était à l'époque de la Ligue. Mais on était obligés parce que d'une part, on a été dissous deux fois hein, quand même. Donc on a subi, je répète, c'est pas une répression fasciste, mais quand même, on a été interdit pendant des années. On a fait un congrès de fondation en Allemagne, Clando et tout. Donc c'était lié quand même à une répression policière d'avoir des pseudonymes. Et puis aussi par rapport au PC, où les rapports aujourd'hui, c'est un rapport fraternel, on s'engueule, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est fini, les agressions physiques et tout, mais à l'époque, on ne se rend pas compte. Donc il y avait à la fois le PC, qui était des méthodes très violentes, il y avait la police et tout, et du coup, on avait des pseudonymes. Moi, ça ne me choquait pas trop.
Alors, vous avez exercé, Alain Krivine, un mandat politique. Vous avez été donc député européen de 1999 à 2004. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Et puis aussi, comment vous êtes arrivé finalement à ce mandat-là?
Non, ben, le mandat, c'est parce qu'à l'époque, d'ailleurs, ça ne fait que me confirmer sur ce que je pense des lois électorales, des institutions et de ceux qui ont l'illusion qu'on peut faire des changements dans les institutions actuelles et par les élections. C'est qu'à l'époque, on pouvait être élu si on avait 5%. Automatiquement, on avait 4-5 élus. Bon, aujourd'hui, après le passage, on était 5 élus, Lutte ouvrière et LCR. Et après ça, ils ont changé la loi. Aujourd'hui, il faut avoir 20-30%, c'est par région. Enfin bon, on ne peut plus avoir d'élus, même le PC est coincé. Ça prouve bien, entre parenthèses, c'est une parenthèse, que ça fait tomber toutes les illusions sur le fait que dans les institutions, bon bref, pour des anticapitalistes. Non, moi, pareil, c'est une expérience de plus. Hein, j'en ai eu pas mal, finalement. Hein, puisqu'il y a eu mai 68, les barricades, ben, la députée, ça n'a rien à voir. J'ai appris vachement, y compris de voir que c'est utile, d'abord parce qu'on apprend plein de trucs. On utilise son mandat, moi je l'utilisais comme un délégué syndical. Je veux dire, on est obligé d'être dans une commission, j'étais dans la commission qui est la même d'ailleurs, c'est aussi un programme immigrés, liberté, terrorisme, de la même. Moi, bon, ça, c'est pas la peine d'insister. Mais du coup, j'ai pu me balader dans le monde entier. J'ai pu aller à des procès où on n'avait jamais le droit d'aller en Tunisie, défendre des gens. Bon, bref, utiliser mon mandat maxi. Hein. Donc, comme délégué syndical, donc c'est utile de faire venir des délégations d'ouvriers en grève, même si j'avais aucune illusion sur les effets. Mais je veux dire, y compris à Saint-Denis, j'ai fait venir des mômes, une trentaine de mômes qui n'avaient jamais quitté Saint-Denis d'une école. Ils découvraient un autre monde, la Belgique, ils ne savaient pas ce que c'était. Bon, mais je veux dire, on peut faire plein de trucs. Hein. Donc, moi, je regrette absolument pas de démagogie. Puis en même temps, c'est une étude ethnologique. Ça m'a fait connaître le monde que je critiquais, mais j'avais jamais vécu de l'intérieur. Les députés entre eux, où tout le monde se caresse le ventre, se fait des bisous. Puis après, ils font semblant de s'engueuler dans l'hémicycle, où souvent ils sèchent, ils viennent pas. Enfin, j'ai découvert des monstruosités, les salaires qu'on reçoit, le pognon pour les assistants, le pognon pour les voyages. Moi, c'est la première fois que j'ai découvert les voyages en première classe, tout payé, les hôtels 4 étoiles, les machins, les bidules. bidules, les subventions qu'on vous donne en plus du salaire pour payer 3-4 permanents. C'est dément. Avoir une bagnole et un chauffeur, hein, c'est quand même, c'est pas désagréable. Je comprends pas que tout le monde ne veut pas une bagnole et un chauffeur. Et, si beaucoup en veulent, puisqu'ils veulent se faire réélire. Mais je veux dire, bon, j'ai découvert tout un monde. Un monde. C'est l'Assemblée, c'est le Parlement européen, c'est un peu à part. C'est à la fois c'est des vieux schnocks que les grands partis osent pas foutre au rabais. Alors, il y a plein de gens de 80 balais hyper connus qui terminent leur vie là-dedans, parce que quand même pas dans les parlements nationaux. Et puis, c'est des jeunes coqs qui sont encore trop jeunes, qui se font les dents. Et c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans le Parlement européen que dans les parlements nationaux, parce qu'après, on les bloque. Hein. Mais là, peuvent faire semblant de... Bon, bref, c'est une étude ethnologique, politique. Moi, ça m'a passionné. Je ne regrette absolument pas. Mais alors, j'ai encore moins d'illusions qu'avant sur ce qu'on peut y faire.
Vous avez des mots très durs de votre livre, donc ça te passera avec l'âge. Vous parlez de gabégie.
De gabegie, ah oui. Oui, sur le plan financier. Je ne vous donne qu'un exemple. Le Parlement s'est réuni à Strasbourg et à Bruxelles. Pourquoi à Strasbourg? Pour faire plaisir à Mitterrand à l'époque. Il voulait qu'il y ait un truc français. Bon franchouillard comme il était. Alors, ils ont construit un Parlement à Strasbourg. Mais on y va très peu. L'essentiel, c'est bon. Mais alors, quand les gens de Bruxelles où on habite vont à Strasbourg, c'est près d'une centaine de camions qui emmènent tout le matos. C'est, je ne sais plus combien, 1500 traducteurs, 600 députés, 1000 assistants. Tout ça auprès de la princesse. Et tout ça pour 3 jours par mois environ à Strasbourg. Un parlement qui est vide. Alors, il y a les employés qui bossent dedans, les femmes de ménage, qui d'ailleurs sont lourdées au bout de 3-4 jours parce que c'est pas un travail à plein temps, hein. c'est un travail précaire. Tous les scandales qui peuvent exister pour le petit personnel, hein, comme on dit. Mais les millions qu'on dépense uniquement pour aller de Strasbourg. Bon, ils ont construit un TGV d'ailleurs. Ils reconnaissent eux-mêmes que c'est en partie pour les députés. On a un TGV pour aller à Strasbourg. Moi, à l'époque, j'y allais en avion. Enfin bon, tout ça, je veux dire, mais quand on additionne tout ça, c'est... Non, moi, ça m'a fait connaître plein de trucs, là. J'ai pris mon pied, hein. Ça m'a rendu encore plus révolté, disons-le, plus révolutionnaire, hein. Moi, ça m'a fait que me confirmer que tout ça, c'est un jeu. Sur lequel on peut changer. Moi, j'ai voté souvent avec la gauche, dès qu'il y a une petite réforme, qui en plus sert à rien, parce que ce qu'on vote au Parlement européen sert à rien, mais tout ce qui peut améliorer le sort des gens, on n'est pas fou, c'est pas parti dans le tout ou rien, on va voter pour. Quoi qu'en disent certains, mais ça ne change rien, il faut être sérieux, c'est pas là que ça se passe.
Oui, parce qu'il y a eu ce scandale que vous évoquez à demi-mot, cette question de la taxe Tobin, on vous a reproché.
Mais oui, je sais, voilà. mais on me l'a reproché, en plus les socialistes me l'ont reproché, ils étaient au pouvoir à une époque, ils ne l'ont pas fait passer. Moi, ce n'est pas ça, c'est que c'était un projet très limité, proposé par les vrais partisans de la taxe Tobin et Pasqua. En même temps, qui limitait complètement, qui demandait, c'était un truc de faux cul, qui demandait une commission d'études pour voir si la taxe Tobin était compatible avec les lois du marché. Enfin, j'ai plus le texte exact. C'est un truc qui dénaturait complètement la taxe Tobin. Moi, je suis à fond pour la taxe Tobin. Soutien à TAC et tout, c'est pas le problème. Mais là, c'était une motion complètement véreuse depuis le départ. Ah, effectivement, elle est pas passée à quelques voix près. Mais quand ensuite on a vraiment voté pour, quand la personne n'en parle, la taxe Tobin, et on s'est retrouvé une minorité, on s'est fait bananer. Et même tous les Verts n'ont pas voté la taxe Tobin. C'est pour ça que ce fameux vote, tout le monde m'a reproché, parce qu'il fallait bien me reprocher quelque chose, je le regrette absolument pas. Ce n'était pas un vote pour ou contre la taxe Tobin. Moi, je suis à fond pour la taxe Tobin. Il paraît que Sarkozy est pour maintenant. Moi, je l'attends au tournant. Quand est-ce qu'il va l'appliquer?
Alain Krivine, il y a aussi un volet de votre action politique qui est le volet essentiel. Vous dites vous-même que vous êtes un activiste. Donc c'est toutes ces luttes, tous ces mouvements auxquels vous avez participé, ces gens que vous avez accompagnés dans des luttes. C'est pour vous le volet essentiel de votre travail politique, on pourrait dire.
Oui, c'est ce qu'on appelle le militantisme. Moi, je suis professionnel. Je ne fais pas de la politique par profession, même si de fait c'est le cas. Bon, aujourd'hui, je suis retraité, mais retraité actif. Mais je veux dire, moi, j'ai été militant depuis tout petit, mais pour des raisons de révolte politique, parce que j'y crois vraiment, hein, pas du tout pour des raisons ni pécuniaires, ni de fonction. Bon, je veux dire, c'est parce que vraiment, j'y crois. Moi, je crois à l'idée qu'il faudra, et plus que jamais avec la crise actuelle, j'y crois. Alors après, il y a tout. Mais du coup, il faut être lucide aussi. Je veux dire, je sais très bien que la nouvelle société qu'on veut créer, c'est pas forcément pour demain. Mais alors du coup, on se fixe pas que ça. Je sais qu'il y a des sectes, c'est la révolution du matin au soir. Ils l'attendent, ils peuvent attendre longtemps. S'ils en restent là, il faut savoir mener des combats qui amènent petit à petit des conquêtes partielles, etc. bien sûr, il faut le faire. Et du coup, les objectifs qu'on se fixe sont parfois limités. Et puis, des fois, on est vachement heureux quand on obtient une victoire, une usine qui ne ferme pas, des gens qui, etc., des gens qu'on libère de tôle. Je veux dire, du coup, il faut se fixer aussi des objectifs en fonction du rapport de force dans lequel on est. Sinon, on devient fou ou sec. Et c'est la même chose pour moi. Donc, j'ai appris aussi à fixer des objectifs qui sont liés, tout en gardant toujours l'objectif central, ça c'est clair, et pas glisser comme certains, j'en ai connu tellement qui étaient chez nous et qui aujourd'hui dirigent quasiment toutes les tendances du PS pour pas le faire.
Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire, Alain Krivine, ce qui reste au NPA et puis peut-être pour vous surtout de l'héritage trotskiste ?
L'héritage trotskiste, pour moi, le trotskisme, c'est un moment révolutionnaire. Dans une période donnée, c'est Trotsky qui défend le marxisme révolutionnaire contre le stalinisme, notamment, à un moment donné. De même, il y avait eu Lénine avant, à un moment donné. Mais pour moi, ce n'est pas une bible. Hein. Trotsky, il a fait des conneries. Ça a été un apport à un moment déterminé. Moi, je suis toujours marxiste révolutionnaire. Le terme de trotskiste me gêne un peu. Je l'utilise face aux anti-trotskistes, comme juifs. Hein. Mais je veux dire, le trotskisme, c'est un moment déterminé. Ça a donné la 4e internationale à l'époque de Trotsky, mais qui elle-même, je l'ai dit, espère bien se transformer avec d'autres en 5e international. Si on a une vue dogmatique, on est mort. Je sais qu'il y a des léninistes pour qui Lénine, c'est la vérité aujourd'hui à tout prix. C'est ridicule. Il faut utiliser la méthode de Trotsky, une série de principes toujours d'actualité, puis les adapter à plein de trucs qui changent. La classe ouvrière, pour moi, elle existe. Elle est encore plus grande que jamais, plus exploitée que jamais, mais elle a complètement changé au niveau sociologique. Elle est autre chose. Ça, elle a d'autres mots d'ordre. Elle est beaucoup plus divisée, plus hétérogène. Enfin, il y a des professions qui ont disparu. Je veux dire, faut actualiser le marxisme. Pour moi, le trotskisme, c'est l'actualité du marxisme à une époque donnée. Et il y a une série de choses qu'on utilise toujours. Bon, l'internationalisme, la démocratie, le contrôle ouvrier et tout. Puis il y a des choses qu'il faut inventer avec le mouvement social. Moi, par exemple, les indignés, ils nous apprennent plein de trucs. C'est une vraie leçon de choses, même si je ne crois pas malheureusement qu'ils vont aboutir, parce qu'il n'y a pas de programme politique, parce qu'ils sont confrontés à un État centralisé, et il faut bien qu'ils aient comme mot d'ordre de le foutre en l'air, de mettre quelque chose à la place, ça, ils n'en sont pas là, mais ils sont radicalement anticapitalistes, c'est un mouvement de masse qui nous dépasse largement, et quand on voit tous leurs mots d'ordre, c'est fantastique, il faut qu'on apprenne de ça, c'est que les rapports des gens avec les partis sont un peu différents, je dis, sans remettre en cause, ce qui pour moi, il y a des frontières qu'il ne faut absolument pas passer, mais après, il faut être capable d'apprendre. Les gens nous apprennent énormément de choses. Sinon, encore, on devient une secte. Et ça, moi, je ne veux absolument pas. Mais je crois que, justement, pour moi, le trotskisme, si on peut appeler ça, c'est l'actualité en permanence du marxisme et de l'esprit révolutionnaire, communiste, appelons ça ce qu'on veut. Moi, les termes, franchement, je m'en fous. Ils ont tous été tellement dévalués que, bon, c'est un peu comme ça que je vois la chose.
Et la fratrie Krivine, politiquement, où est-ce qu'elle en est ? Est-ce que vous êtes toujours un groupe soudé ?
Non, bon, on n'a jamais été soudés. Hein. Maintenant, ils sont tous plus vieux que moi. Certains frères sont assez âgés. Mais bon, on est 3 au NPA, 1 au PC, et, même s'il est très critique, et un qui n'est plus nulle part. Tout ça, ça vient du PC, mais ça a donné, voilà. Donc, quand on se voit, ça donne des réunions unitaires très fraternelles. Mais c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, mais bien au-delà de sa famille, parce que pour moi, quand même, le trotskisme ou la révolution surtout, c'est pas une histoire de famille.
Merci Alain Krivine. À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, chargé de réalisation Dominique Costa. Vous pouvez toujours réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.